VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Abidjan, 17h à N'Djamena, bienvenue à notre journal. On commence par le Burundi. Pour le parti présidentiel CNDD-FDD, la vérité attendue par le peuple burundais ne viendra pas d'une nouvelle version de l'accord d'Arusha, selon un communiqué lu par le président de cette formation, Pascal Nyabenda. Ce dernier affirme que des Burundais se prétendant les plus intelligents, sans mandat de personne, se sont retrouvés à Arusha où des intérêts de partage de postes de responsabilité dans un gouvernement de transition ont été échangés avec la bénédiction de la communauté internationale et notamment de la Belgique. Pascal Nyabenda ajoute qu'après avoir tenté un coup d'État contre des institutions démocratiquement élues, ceux qui avaient participé à Arusha veulent rééditer leur forfait en 2016 en créant Arusha Bis pour confisquer le pouvoir du peuple et parachever ainsi le putsch manqué du 13 mai 2015. Plus de détails avec notre correspondant à Bujumbura, Christophe Nkurunziza.
Dans un message radiodiffusé à la veille de la célébration du 54e anniversaire de l'indépendance du Burundi, le président du parti présidentiel est on ne peut plus clair sur les accords de paix et de réconciliation signés en 2000 à Arusha, en Tanzanie, par les différents mouvements rebelles et le gouvernement du major Pierre Buyoya. Pascal Nyabenda fustige les intellectuels qui ont conclu cet accord sur base ethnique. Pour le président du parti au pouvoir, les Burundais aujourd'hui ont besoin d'un accord construit par ceux-là même qui ne se sont pas rendus à Arusha en 2000, spécifiant les vieilles et vieux Burundais qui habitent les différentes collines du Burundi profond, ceux-là qui ne se partagent pas les postes ministériels. Le président du parti CNDD-FDD a déclaré qu'Arusha n'est que le siège des spéculations politiciennes égoïstes sans intérêt du peuple pour lequel l'accord devait être conclu. Pascal Nyabenda indique qu'il n'y a pas de vérité possible qui peut provenir d'Arusha. Le président du parti CNDD-FDD a conclu en disant que les intellectuels ne peuvent pas réfléchir à la place du peuple et qu'une telle vision ne doit plus tromper le facilitateur et ancien président tanzanien Benjamin William Mkapa pour connaître une vérité durable à l'actuelle crise qui perdure depuis le troisième mandat contesté du président Pierre Nkurunziza. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
En RDC, le président Joseph Kabila confirme que les élections auront lieu et il a appelé à la convocation rapide du dialogue politique. Dans son traditionnel discours à la nation, à l'occasion de la commémoration du 56e anniversaire de l'indépendance du Congo-Kinshasa, M. Kabila a souligné que plus rien ne pourra arrêter le train des futures élections. Il a par ailleurs lancé un appel au facilitateur Edem Kodjo pour l'ouverture rapide du dialogue politique. Un extrait de sa déclaration avec Top Congo FM, notre station partenaire à Kinshasa.
Rien ne pourra arrêter le train de futures élections. Voilà pourquoi je lance un appel solennel à notre peuple, comme je l'avais fait en 2005 et en 2011, de participer massivement aux opérations proprement dites d'enrôlement des électeurs qui débutent dans quelques semaines en vue de l'établissement des listes électorales. Je tiens à vous rassurer que toutes les dispositions ont été prises en vue du financement du dit processus.
Le président Joseph Kabila de la RDC. La lutte contre Boko Haram au Cameroun, 11 personnes sont mortes lors d'un attentat suicide dans la nuit de mercredi à jeudi à Djakana, localité camerounaise de l'extrême nord frontalière du Nigeria. 10 Camerounais, pour la plupart des membres d'un comité de vigilance chargé de traquer les combattants de Boko Haram, plus le kamikaze. On compte aussi 4 blessés, c'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le gouverneur de la région, Midji Yawa Bakari. Ces dernières semaines, aucun attentat suicide n'avait été signalé dans ce secteur frontalier de la zone d'influence de Boko Haram au Nigeria voisin. Et toujours concernant la lutte contre les djihadistes en Afrique, le Kenya, déjà meurtri par plusieurs attaques d'envergure des islamistes somaliens Shebab, note avec inquiétude la présence croissante du groupe État islamique en Afrique de l'Est, ce qui attise les craintes d'attentats par des Kenyans rentrés au pays après avoir été combattre dans le djihad. Idrissa Seloudia.
Il y a maintenant une menace réelle de la part du groupe État islamique pour le Kenya et le danger va continuer de croître, estime Rachid Abdi, analyste de l'International Crisis Group basé à Nairobi. Les renseignements kényans estiment à une centaine le nombre de Kenyans ayant rejoint les rangs du groupe État islamique en Libye et en Syrie, avec la perspective de voir certaines de ces recrues rentrer avec la formation nécessaire pour commettre des attentats meurtriers.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
Au Mali, l'armée malienne a été attaquée vers 18h30 ce mercredi 29 juin 2016 près de Tinteloup dans la région de Tombouctou par des individus armés non identifiés. Bilan provisoire, 4 morts, 2 blessés graves, 3 blessés légers. La situation sécuritaire devient inquiétante dans cette région. Et dans le seul mois de juin, il y a eu plus d'une dizaine d'attaques contre les militaires maliens. Le compte-rendu de notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
L'armée malienne tombe encore dans son énième embuscade dans la région de Tombouctou, plus précisément à Tinteloup, localité située à quelques 25 km de la ville de Tombouctou. Le bilan est de 4 soldats maliens tués, 3 blessés graves et 2 blessés légers. Les assaillants ont emporté 2 véhicules de l'armée malienne bien équipés. Le convoi de l'armée malienne attaqué était en route pour Goundam quand il a été la cible des hommes armés non identifiés. Les assaillants n'ont pas pu être poursuivis, faute de vecteurs aériens. L'axe Tombouctou-Goundam devient la plus dangereuse dans la région de Tombouctou. Pendant le seul mois de juin, l'armée malienne a été victime d'au moins 4 attaques sur cette route. Sur les 10 attaques qu'enregistre la région de Tombouctou pendant le seul mois de juin, a rappelé qu'il y a eu un changement au niveau des FAMA. Le nouveau général de division et ancien chef d'état-major général adjoint vient d'être nommé chef d'état-major général des armées du Mali. Il s'agit du général de division Didier Dako. Il remplace à ce poste le général Mamane Touré, dont le nom est cité dans l'affaire des affrontements de Kidal en 2014. Affrontement né de la visite forcée de l'ancien premier ministre Moussa Mara à Kidal. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, les avocats de l'ex-première dame ivoirienne Simone Gbagbo, jugée à Abidjan pour crime contre l'humanité, réclament la publication d'un rapport psychiatrique sur un ex-chef de milice qui a témoigné hier contre Madame Gbagbo. L'intéressé a accusé l'ex-première dame d'avoir financé son mouvement pour Gbagbo, John Lydon.
Nous détenons les preuves que le témoin a déjà fait l'objet d'un examen psychiatrique, a répliqué hier Maître Ange Rodrigue Dadier, un des avocats de Madame Gbagbo. Il dit exiger cette expertise en raison de l'incohérence flagrante des propos de Moïse Harold Emech, chef du GPP, le groupement des patriotes pour la paix actuellement en prison. Maître Dadier a demandé la publication du rapport avant la poursuite de l'audition du témoin afin de ne pas induire les membres du jury en erreur. De son côté, le président de la Cour, Kouadio Boati, a interrogé le témoin sur sa capacité mentale. « Je suis en possession de toutes mes facultés mentales », a lancé à la barre M. Metch. L'audition de l'ex-milicien suspendu hier devrait donc reprendre ce jeudi après la publication du rapport de l'examen psychiatrique de ce témoin à charge.
Actualité hors d'Afrique maintenant avec les séquelles du Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Rebondissement dans la course à la succession du Premier ministre britannique David Cameron. Boris Johnson, le chef de file des partisans du Brexit, a renoncé à sa candidature. Eric Manirakiza.
C'est un véritable coup de théâtre. Boris Johnson a annoncé qu'il n'était plus candidat pour succéder à David Cameron, le premier ministre démissionnaire. L'ancien maire de Londres a retourné sa veste après avoir appris que son allié, le ministre de la Justice Michael Gove, l'avait devancé. 4 autres candidatures sont annoncées, dont Theresa May, la ministre de l'Intérieur qui fait figure de candidate de consensus. Fidèle à David Cameron, elle a même défendu l'idée de limiter l'immigration. Il y a aussi Stephen Crabb, ministre du Travail, qui a annoncé en premier qu'il voulait devenir le prochain locataire du 10 Downing Street. Malgré son attachement à l'Union européenne, il a indiqué qu'aucun retour en arrière n'est possible, excluant de facto un second référendum.
Le président américain Barack Obama était hier à Ottawa, au Canada, où il a eu un sommet avec le premier ministre canadien Justin Trudeau et le président du Mexique Enrique Peña Nieto. L'accord de libre-échange, le Brexit et la lutte contre le changement climatique ont dominé les débats à cette réunion. Et on termine avec l'Euro 2016 de football. Le premier quart de finale de la compétition Pologne-Portugal, c'est à Marseille ce soir à 19h, temps universel. Voilà, c'est tout. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.